m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Et avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Grande, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Amis du lundi, Hardy, bonsoir et bienvenue dans Restons Courtois, votre émission de débat sur Radio Courtoisie, en partenariat avec L'Incorrect, avec Boulevard Voltaire, avec Valeurs Actuelles et Le Monde Moderne. Et notre invité du jour est Nicolas Pouvreau-Monty, qui est le directeur de l'Observatoire de l'Immigration et auteur de Immigration, mythes et réalités chez Fayard, dont le succès impressionnant illustre à quel point aujourd'hui l'immigration est devenue une préoccupation de tous les Français. Et il y a fort à parier que cette préoccupation le restera tant que des tribunaux vont condamner des maires qui refusent de marier des immigrés sous OQTF, ou que des Lola, des Thomas, des Philippines ou des Louis se feront martyriser ou assassiner par des monstres issus de l'immigration dans l'indifférence des pouvoirs publics. Alors avec Nicolas Pouvreau-Monty, nous allons faire un point factuel sur les réalités de l'immigration en France et des projections réalistes sur l'avenir de notre pays. Alors, quel est l'impact de l'immigration sur le travail, sur les finances publiques, sur l'enseignement, sur le logement, sur la sécurité? Que faut-il prévoir comme évolution pour notre pays en matière, par exemple, de disparités géographiques, sociales, politiques? Quelle évolution pour les rapports hommes-femmes? Ce sont des vraies questions qu'on est en droit de se poser. Pour le droit des minorités sexuelles, pour le dialogue interreligieux, pour l'infiltration de certaines diasporas ou de certains représentants de certaines diasporas, pour garder une maîtrise de l'antenne, dans le tissu économique et notamment dans l'économie informelle, voire dans la criminalité organisée. Et puis, sur la base de cette discussion sereine et factuelle, nous débattrons sans concession pour déterminer si oui ou non l'immigration est une chance pour la France. Et je sens un débat qui va être sanglant. Alors, rendez-vous de la réinformation ensuite. Exceptionnellement, chers auditeurs, je vais céder le micro à Richard de Sèze, qui a accepté de me grand remplacer l'espace d'une heure, car je dois impérativement me rendre à une réunion très importante pour notre radio, et je n'en maîtrise pas l'horaire. Alors, avec lui et avec les clandestins de la réinformation, que je vous présenterai dans un instant, il sera question de la canicule, et puis des réactions de nos dirigeants, des dirigeants dont le mérite notable... peut-être le seul, et d'avoir brassé beaucoup de vent, mais pas assez malgré tout pour remplacer une bonne vieille climatisation. Et il est vrai que le premier grave épisode de la canicule ne remonte qu'à 2003, et que 23 ans après, il est peut-être normal que le gouvernement n'ait pas eu le temps de se retourner. Et, non, je sais pas, je vous sens d'une,
d'une méchanceté. Festinalente.
Voilà. Et puis, c'est pas comme si aussi on avait été sensibilisé par 30 ans de discours sur le réchauffement climatique, sujet notoirement sous-traité dans les médias. Voilà. Donc, comme dirait Greta Thunberg, on n'en fait jamais assez. Et on n'en fait jamais assez non plus pour les immigrés illégaux. On reviendra pour mettre la phase B, après l'entretien avec Nicolas Pouvreau-Monty. Les immigrés illégaux qui sont manifestement chez eux, chez nous, et c'est même la justice qui le dit, notamment, donc, comme je l'évoquais, lorsqu'un tribunal condamne la mairie de Chessy en Seine-et-Marne à 6000 euros d'amende parce que ces édiles ont refusé de marier un Algérien sous OQTF, donc un immigré illégal, avec une Finlandaise, et ils ont refusé de marier ce couple dans le cadre d'une union qui ressemblait, mais alors vraiment furieusement, à un mariage blanc. Et l'enquête a permis quand même d'établir des doutes assez puissants, et a posteriori, on note aujourd'hui que les deux tourtereaux vivent séparés, chacun dans leur coin, dans deux villes différentes. Mais voilà, oui... mais l'histoire d'amour finit bien puisque l'Algérien va avoir ses papiers. Voilà, donc, et après, quelques semaines après la publication du rapport à l'oncle sur les dérives financières et politiques du service public, nous terminerons par cette mise en demeure de l'ARCOM contre CNews. Voilà, moi je ne cherche plus à comprendre, mais voilà, la chaîne d'information privée est accusé de critiquer de manière excessive la politique du gouvernement et de ne pas assez inviter de personnes de gauche. Et son directeur général, donc Maxime Sada, a publié une tribune dans le Figaro où il s'inquiète de l'évolution autoritaire et illibérale. Alors c'est moi qui choisis ces termes, mais qui me semble correspondre à, et bien traduire sa pensée, de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle, donc connue sous son doux nom d'ARCOM, autorité qui semble, selon lui, pas selon moi, s'éloigner un peu de ses prérogatives. Je prends des précautions parce que l'ARCOM est notre autorité à nous aussi, et donc je tiens à garder, à rester dans ses bonnes grâces. Alors voilà, pour parler de tout cela, je le disais donc, nous accueillons les clandestins de la réinformation. Alors Richard de Seize, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie, qui squatte littéralement, parce qu'il est là depuis 6h du matin et il partira qu'à 21h, donc bonsoir Richard.
Je lutte. Bonsoir.
Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, Xavier Van Liert, journaliste. Nous attendons Alexis Poulain du Monde Moderne et Arthur de Vatrigan de l'Incorrect. Arthur a une excellente excuse parce qu'il est en train d'exporter, si je puis dire, de plateau en plateau la grande enquête de Radio Courtoisie réalisée en partenariat avec l'Incorrect notamment. Et Boulard Voltaire et le GIM, sur les associations de gauche dont on vous a parlé la semaine dernière. Voilà. Et donc il est actuellement sur CNews, voilà, signe d'une consanguinité atroce et droitière et patriarcale et je ne sais quoi. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle il arrivera avec un peu de retard. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire également en écrivant un courriel à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou en envoyant un message téléphonique au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Vous pouvez poser toutes vos questions ou faire part de toutes vos remarques à Nicolas Pouvreau-Monti, donc je le répète, auteur de Immigration, Mythes et Réalités chez Fayard, et ensuite à Richard de Seize pendant le rendez-vous de la réinformation. Alors, Nicolas Pouvreau-Monti, bonsoir.
Bonsoir, merci pour votre accueil.
Eh ben, merci d'y avoir répondu favorablement. Vous n'êtes pas un polémiste, contrairement à nous qui ne sommes pas des gens toujours très sérieux. Vous êtes quelqu'un de très sérieux. Vous dirigez l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, je crois.
Oui, c'est exactement ça.
Et vous êtes donc l'auteur d'un livre à succès, je pense qu'on peut le dire également, bien que ce soit un essai et pas un roman, mais les essais ont rarement du succès, finalement. Mmh. Et là, donc, c'est quand même un signal assez intéressant. Et... Donc votre livre est une somme, je pense qu'on peut dire dépassionnée, qui est documentée en tout cas, et qui est surtout étayée par des chiffres et des faits. Alors voilà, néanmoins, et sans vouloir être désagréable avec vous, j'aimerais quand même ouvrir cet entretien par quelques déclarations de notre maître à tous, le démographe Hervé Lebras, dont les analyses ont bercé mes études, notamment... quand je suivais des cours de sociologie politique. Et Hervé Lebras a ce mérite immense d'affirmer, en tout cas, de souhaiter démonter les idées reçues et aussi de nous apprendre à ne pas croire tout ce que l'on voit. Ça, c'est important. C'est un peu le contraire de Michel Tribala.
Oui.
Et il dit des choses fascinantes. Face à l'argument qui prétend que la France fait face à un afflux de migrants sans précédent, il nous répond que c'est faux. La France, je le cite, a été, à partir du milieu du XIXe siècle, l'un des principaux pays d'immigration, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et l'immigration en France est stable depuis les années 30. Parole de démographe. Il nous dit aussi la peur de l'immigration et le fantasme de son augmentation statistique. Fantasme de son augmentation statistique se fonde sur une perception forcément subjective qui peut être renforcée par des situations locales, c'est-à-dire une ségrégation géographique et sociale. Donc c'est parce qu'ils sont parqués dans des ghettos que nous pouvons avoir une impression d'accumulation. Et à ceux qui opposeraient la vision de la rue à son savoir de démographe, et notamment donc Richard Millet, qui évoquait le RER à Châtelet à 18h, il affirme, Hervé Lebras, démographe, que d'abord... s'il y a plus de Noirs et d'Asiatiques dans le métro, c'est parce que Paris est, avec la Seine-Saint-Denis, l'un des endroits de France où il y a la plus forte proportion de touristes et de... C'est vrai, hein, c'est pas moi qui l'invente. Vous n'avez pas l'air d'accord, Jean-Yves.
Mais on les a vus le samedi soir de la fête de la musique à Châtelet.
Non, ça c'était des Anglais.
Ah, peut-être.
Des supporters anglais. Mais donc il nous dit, S'il y a plus de Noirs et d'Asiatiques dans le métro, c'est parce que Paris est, avec la Seine-Saint-Denis, l'un des endroits de France où il y a la plus forte proportion de touristes et de personnes originaires de l'outre-mer. Tandis que, sur les plus grandes parties du territoire français, on retrouve les proportions nationales qui sont assez faibles. Et, second point, parce qu'il aime bien argumenter, Hervé Le Bras, les immigrés ont des revenus inférieurs, ils prennent donc davantage les transports en commun. Et là, je me dis, Nicolas Pouvremonti, pouf, bouche bée dans son bec, il n'aura rien à vous dire, à nous dire. Alors voilà, ben que pensez-vous d'Hervé Le Bras ? Est-ce que vous vous inscrivez dans sa filiation ? Et est-ce que vous avez des premières réponses à apporter à ces affirmations ?
Écoutez, bien sûr, alors c'est difficile de choisir dans cette liste d'affirmations d'Hervé Le Bras qui sont au mieux biaisées, au pire fausses. Dans un certain nombre de cas, leur caractère erroné ne devrait pas donner lieu à discussion puisque les faits sont disponibles et Hervé Le Bras a accès aux mêmes faits que moi, donc il n'a pas vraiment d'excuses. J'irais à l'inverse et je vais vous répondre évidemment sur les affirmations de Monsieur Le Bras que le travail de l'OID s'est précisément construit dès son origine à rebours de ce qu'on pourrait appeler l'expertise officielle en matière d'immigration. Peut-être l'avez-vous passé, il y a 15 jours de ça, il y a eu un remarquable papier du Figaro sur la trajectoire de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, qui a fait partie de ces citadelles des institutions publiques qui disaient le vrai, le bon, le juste sur la question de l'immigration, et qui, depuis maintenant une trentaine d'années, ont été d'abord prises en main par un certain nombre de figures, Hervé Le Bras, François Héran, et qui depuis ont diffusé une expertise qui avait moins vocation à éclairer le débat public qu'à le convertir. Et je pense que le cas d'Hervé Le Bras que vous citez avec ses déclarations est quand même spécifiquement marquant. C'est-à-dire que on s'attire d'une démarche quasiment religieuse. Il s'agit de convaincre les Français qu'ils ne voient pas vraiment ce qu'ils voient, que la réalité est ailleurs, finalement, peut-être dans un autre monde. et c'est évidemment d'autant plus problématique que les réalités migratoires que nous vivons aujourd'hui sont radicalement inédites. Par leur ampleur, par leur nature, elles ont aujourd'hui la forme d'un fait social total qui a des implications sur à peu près tous les aspects de notre vie en société. Sur les trois points principaux d'André Le Bras que vous avez
cités. Donc l'immigration est stable depuis les années 30.
Oui, alors ça d'abord c'est faux. C'est-à-dire qu'il est factuellement vrai de dire qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France que ces dernières années, que ce soit en termes de flux, de nouveaux entrants, qu'en termes de population immigrée. Vous voyez, la population immigrée en France, elle a augmenté au sens strict, de première génération, les personnes nées étrangères à l'étranger. Cette population a augmenté de 80% depuis l'an 2000. C'est 5 fois plus que l'augmentation de la population générale. Aujourd'hui, quand vous prenez à la fois les immigrés eux-mêmes et les descendants d'immigrés de deuxième génération, vous avez 23 à 24% de la population qui est d'origine immigrée sur deux générations, dont environ les deux tiers sont d'origine extra-européenne. Donc ça, c'est évidemment une situation radicalement inédite, à la fois en nombre, c'est-à-dire que y compris dans les hautes eaux de l'immigration très largement européenne des années 20, il n'y avait pas cette part d'immigrés dans la population de la France, il n'y avait pas ces entrées aussi nombreuses. Et c'est aussi faux dans la mesure où la quantité ne dit pas tout. C'est-à-dire que les profils d'immigration que la France a reçus ces dernières années sont en rupture complète avec ce qu'ont été effectivement les premières phases de l'histoire de l'immigration en France, parce qu'il n'est pas faux de dire que nous avons été l'un des premiers pays d'immigration en Europe. Ça, c'est vrai. Dès la fin du 19e siècle, une immigration quasi exclusivement européenne, parce que nous avions une démographie anémiée, là où les autres pays européens envoyaient plutôt leurs ressortissants peupler oui, l'Amérique, les colonies, l'Australie, oui, le Canada, oui. Tout à fait, la France n'a pas fait ça. À partir des années 70, on a eu un vrai tournant dans cette nature de l'immigration, parce qu'on a eu un début de l'immigration extra-européenne pendant les Trente Glorieuses, notamment l'immigration algérienne initialement. Double, si je puis dire, double mouvement. Allez-y, je vous
avant,
en prie.
Pardonnez-moi, oui. Donc cette première immigration, pardon, qui date des années 1890-1900, jusqu'aux années 30, pour le coup, dont parle Monsieur Le Bras, on a essentiellement, si je ne me trompe pas, des Italiens, des Polonais, qui ont en particulier, notamment, qui est le point commun d'être des catholiques,
oui.
Et d'être de la même ethnie que nous.
Absolument. Vous voyez, après la première vague d'immigration, à la veille de la guerre de 14, les deux principales nationalités étrangères en France, ce sont les Italiens et les Belges. Dans les années 20, vous avez de nouvelles nationalités, notamment les Polonais qui arrivent. Dans les années 30, des Espagnols, dans le contexte historique que l'on sait. Mais cette immigration était quasi intégralement européenne. Il y avait des travailleurs des colonies qui venaient, notamment dans les années 30, mais qui comptaient pour quelques dizaines de milliers de personnes, qui sont très largement repartis, puisqu'on a eu un mouvement de recul de la population immigrée dans les années 30, en raison de la crise économique, en raison aussi de mesures restrictives prises par les gouvernements républicains de l'époque, qui voulaient protéger la main-d'œuvre nationale. Et depuis les années 70, on est entré dans une situation qui est radicalement inédite et qui s'est s'est accéléré.
Je vous en prie. Les années 30, ça veut dire notamment peut-être le Front Populaire en 36.
Oui, c'est-à-dire que le gouvernement de Front Populaire, dans la foulée de ceux qui l'ont précédé et qui étaient des gouvernements essentiellement radicaux-socialistes, a pris des mesures de restriction de l'immigration, de renvoi d'un certain nombre de travailleurs étrangers dans une période marquée par le chômage de masse et par ailleurs aussi avec un système d'État-providence qui n'était pas comparable à celui d'aujourd'hui. Donc un certain nombre de travailleurs étrangers sont simplement repartis de même parce qu'il n'y avait plus de travail pour eux en France. Tournant après les Trente Glorieuses, 74, fin officielle de l'immigration dite de travail, 76, on a marqué les 50 ans il y a quelques jours, instauration du regroupement familial. On a eu une période entre le milieu des années 70 et le milieu des années 90 où l'immigration au sens des flux entrants était moins nombreuse que pendant les Trente Glorieuses, mais elle était devenue très largement extra-européenne et très largement décorrélée des motifs économiques, donc très largement familiale.
Donc à l'époque, essentiellement maghrébine ?
Essentiellement maghrébine, puis subsaharienne. Et depuis la fin des années 90, ce que nous vivons, c'est une accélération structurelle, sans précédent, sur à peu près tous les indicateurs d'immigration dont nous disposons, à la fois accélération en nombre, hein, je vous évoquais la population immigrée qui a augmenté de 80% depuis 99. On pourrait évoquer le nombre de clandestins qui est difficile à appréhender par nature parce que c'est une situation occulte, mais si on prend le nombre de bénéficiaires de l'AME, vous savez ce dispositif réservé aux clandestins, le nombre de bénéficiaires de l'AME a triplé en 20 ans, donc ça atteste de la dynamique de l'immigration clandestine, à la fois très grande augmentation en volume et aussi profil d'immigration de plus en plus divergent culturellement. Nous avons notamment la particularité d'avoir en France l'immigration la plus africaine d'Europe, trois fois la moyenne de l'Union européenne pour ce qui est de la part des natifs d'Afrique, Maghreb et hors-Maghreb, dans le total de la population immigrée. On a vu surgir ces dernières années des immigrations extra-européennes auxquelles on n'était pas habitué. Vous voyez, le nombre
d'Asie centrale notamment.
Alors, le nombre d'immigrés qui viennent du Moyen-Orient, qui habitent en France et qui sont nés au Moyen-Orient, a plus que doublé depuis le milieu des années 2000. Même chose pour l'Asie du Sud, des pays comme le Pakistan ou le Bangladesh. Même chose pour les Afghans. Vous voyez, il y a maintenant, et on a pu le révéler avec une étude OID Fondapol, plus de 100 000 Afghans en France qui sont arrivés en l'espace de quelques années du fait du droit d'asile. Et tout ça dessine une réalité inédite. Et pour finir de répondre à Hervé Lebras, une réalité qui concerne aujourd'hui l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que dans le phénomène d'accélération que je vous décrivais, la géographie de ce phénomène, c'est moins la ghettoisation que la diffusion. Quand vous regardez les villes de France dont la part des immigrés dans la population a le plus augmenté en 20 ans, vous y trouvez essentiellement des villes du Grand Ouest, des villes situées dans des régions qui sont longtemps restées à l'écart des grands courants d'immigration, y compris les courants précédents dans l'histoire de l'immigration, et qui aujourd'hui connaissent un phénomène de rattrapage, si je peux dire, qui est très rapide. Vous voyez, la population immigrée a doublé en 15 ans dans une ville comme Le Mans, c'est à peu près la même chose à Caen, à peu près la même chose à Brest. Dans des petites villes de l'Ouest, c'est parfois encore plus marqué, x3, x4, x5, x8. Et donc aujourd'hui, le fait de considérer, comme Hervé Lebras, que la question migratoire et ses implications démographiques se limiteraient à l'agglomération parisienne, c'est au mieux une vision datée, au pire une manipulation.
Alors, je vous demanderai peut-être de faire un choix tout à l'heure, mais je voudrais raconter une anecdote qui m'a touché la semaine dernière. Je prenais un taxi à Paris et le chauffeur était un Algérien qui venait de Creil et qui me racontait qu'il ne comprenait pas pourquoi la France se comportait ainsi face aux immigrés, que la France n'était plus la France, qu'il le déplorait, et notamment à cause de la perte de ses racines. Et il me disait, moi, à Creil, par exemple, quand j'y retourne, on ne s'y retrouve plus, c'est bourré de Pakistanais. Je me suis dit, bon, bah, ce pauvre monsieur, les Algériens se font grand remplacer par les Pakistanais, il n'y a pas que nous. Et voilà, et donc, effectivement, il y a des strates qui semblent se superposer, mais qui gagnent aussi, vous parliez des petites villes, mais qui gagnent même les campagnes, on l'a vu récemment avec les camps de migrants qui arrivent dans la ruralité.
Oui, tout à fait. Et sur ce point précis, notamment dans les campagnes, il y a l'effet d'une politique de répartition volontariste, explicite. C'est-à-dire que depuis la fin des années 2010, on a mis en place ce qu'on appelle le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. On a ouvert des dizaines de milliers de places spécialement réservées à l'accueil de ces demandeurs. Il y en a environ 120 000 aujourd'hui au niveau national. Et on les a ouverts en priorité dans des régions, dans des territoires qu'on estimait moins saturés que d'autres. Donc les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, souvent dans des très petites communes. Et effectivement, ça a fait partie, avec d'autres facteurs, des forces à l'œuvre derrière la diffusion de l'immigration qui a notamment concerné l'immigration subsaharienne, puisque parmi les grandes origines migratoires, c'est la population immigrée qui a le plus augmenté ces dernières années. La population immigrée originaire d'Afrique hors Maghreb a augmenté de 150% depuis le milieu des années 2000. Et on retrouve notamment les villes réceptacles de cette immigration dans des communes du Grand Ouest. Vous voyez une ville comme Nantes, par exemple, dont on parle beaucoup. C'est une ville qui, en 2006, avait une part d'immigrés inférieure à la moyenne nationale. la population immigrée y a doublé en 20 ans. Donc la part d'immigrés est maintenant supérieure à la moyenne nationale. Et le principal zone d'origine des immigrés qui y vivent, c'est l'Afrique subsaharienne. On pourrait dire la même chose de beaucoup de villes du Grand Ouest.
Alors ils ont remplacé les Roms, parce que longtemps Nantes a été un spot, si je puis dire, un point d'accueil des populations Roms. Alors néanmoins, j'ai l'impression que vous vous acharnez à donner tort à Hervé Lebras, donc démographe expert de l'immigration, parce que lui nous dit que la plus grande violence en France, en matière d'insécurité, c'est celle, encore une fois je le cite, hein, peut-être a-t-il raison, peut-être a-t-il tort, je ne suis pas moins un expert, mais il nous dit que la plus grande violence en matière d'insécurité en France aujourd'hui est vécue par les immigrés, notamment par rapport aux conditions désastreuses du droit d'asile. Est-ce que ça vous semble juste ou moyennement juste ?
Écoutez, il semble que ce constat ne soit pas partagé par les immigrés eux-mêmes, puisque le nombre d'étrangers bénéficiaires du droit d'asile en France a triplé en 10 ans. Il y a maintenant 700 000 étrangers bénéficiaires de l'asile, c'est l'équivalent d'une ville qui serait la troisième du pays. Sur ces 700 000 étrangers bénéficiaires de l'asile, vous avez des profils de nationalité très identifiés, d'abord les Afghans, puis les Syriens, des ressortissants de la RDC, des ressortissants russes, dont un certain nombre de Tchétchènes. Et aujourd'hui, l'asile, très précisément, c'est le canal d'immigration qui connaît la plus forte augmentation. L'an dernier, donc on a connu une année record, hein, 385 000 nouveaux titres de séjour accordés, c'est du jamais vu. Mais là, oh, donc c'est une
385 000,
alors c'est une hausse.
C'est quand même une grande ville.
Enfin, c'est... Oui, alors tous ceux qui obtiennent ces titres ne restent pas en permanence sur le territoire, mais une part significative reste. Donc c'est une hausse structurelle qui a lieu sur 25 ans, mais la hausse spécifique de l'an dernier, qui a été de 11%, est entièrement due au droit d'asile, quasi entièrement. C'est-à-dire que le nombre de titres de séjour accordé pour droit d'asile a augmenté de 70% en un an, et c'est vraiment un canal qui pose beaucoup de questions, parce que c'est à la fois celui qui augmente le plus, celui sur lequel le pouvoir politique a le moins de prise. Ce n'est ni le gouvernement, ni le Parlement, ni même la Commission européenne qui décide des populations éligibles à l'asile. C'est un droit...
Alors qui décide ? C'est les tribunaux ?
Alors, sont essentiellement les juridictions. Vous avez en amont des grands traités surplombants, la Convention Genève de 51, le protocole de New York de 67, en aval des juridictions qui interprètent ces traités, c'est le cas en France de la Cour nationale du droit d'asile, c'est le cas de la Cour de justice de l'Union européenne sur un certain nombre de sujets, mais il n'y a aucune capacité de contrôle démocratique entre ces traités et l'interprétation très large qui en est faite. Vous voyez, typiquement, dans la Convention de Genève, il y a un concept clé qui est le groupe social. Le groupe social, c'est une population à risque de persécution qui a droit au statut de réfugié. Eh bien, aujourd'hui, dans l'état de notre jurisprudence, un groupe social, ça peut être toutes les femmes d'un pays. Par exemple, depuis quelques mois, l'ensemble des femmes de Somalie. Ah. Ça suivait effectivement le cas des femmes afghanes, tout à fait, qui ont intégralement droit à l'asile en France. Bien qu'on les retrouve assez peu, en vérité, hein, chez les bénéficiaires de l'asile afghan en France, qui sont à 80% des hommes. C'est le cas de l'ensemble des personnes homosexuelles ou transgenres d'un certain nombre de pays.
Ça, c'est devenu même une filière un peu d'immigration illégale, parce qu'ils prétendent l'être, alors qu'ils ne le sont pas.
Alors, en fait, ça revient à la difficulté de vérifier ce genre de cas. Et d'autant que, là, vous savez, suite à la loi de pénalisation de l'homosexualité au Sénégal, on a un afflux, et ça a été documenté dans la presse, de Sénégalais qui disent être homosexuels et qui demandent une protection au titre de l'asile. Pour l'instant, ça n'est pas un groupe social reconnu collectivement éligible. Et c'est très amusant parce que dans les associations qui accompagnent ces demandeurs, on incite les juridictions à ne pas être prisonniers des visions occidentales de l'homosexualité. C'est-à-dire que même si le demandeur a une femme et quatre enfants, peut-être qu'il est homosexuel. Parce que ça n'est pas...
Ça peut aussi arriver en Occident.
Enfin,
c'est pas la loi du genre.
Mais dans ces cas-là, comment vérifier très concrètement ? Et pour finir sur ce droit d'asile, le dernier point sans doute, c'est qu'il charrie des profils d'immigration qui sont parmi les plus problématiques. J'évoquais les Afghans, on pourrait évoquer les ressortissants tchétchènes, des enjeux sécuritaires, des enjeux culturels évidents, parce que on imagine difficilement une distance culturelle plus longue à parcourir qu'entre l'Afghanistan d'une part et n'importe quelle société européenne contemporaine d'autre part. Et donc alors, je ne comprends pas Hervé Lebras.
Votre pensée pour les auditeurs de Radio Courtoisie, c'est-à-dire des populations généralement composées d'hommes jeunes, musulmans, parfois avec des visions de l'islam tout à fait radicales, et avec des habitudes aussi de vie en société extrêmement violente, c'est-à-dire qu'ils ne gèrent pas les rapports sociaux ou les conflits de la même manière qu'un bobo du 11e.
Oui, quoi. Alors
la violence fait partie de leur réponse.
Il y a à la fois une question anthropologique dans le rapport entre l'homme et la femme, enfin, on va pas revenir sur la situation de l'Afghanistan qui est hélas bien connue, mais il y a aussi la situation de pays qui, au-delà du contexte culturel, ont été ravagés par des décennies de guerre. C'est-à-dire que l'Afghanistan, c'est un pays qui est en guerre continue depuis...
La Tchétchénie aussi.
Alors, l'Afghanistan depuis plus de 50 ans, la Tchétchénie depuis bientôt 30 ans, où la violence fait partie de la vie en société, et donc ça crée effectivement des profils qui sont particulièrement problématiques. Hélas, on n'a pas, typiquement, vous faisiez lien avec les questions de sécurité, on n'a pas en France un détail fin pour toutes les nationalités parmi les mises en cause, mais si on regarde en Allemagne, par exemple, on voit qu'il y a un facteur de surreprésentation très fort des ressortissants afghans parmi les mises en cause pour un certain nombre de violences, notamment sexuelles, par rapport à leur part dans la population. Dans tous les pays où on a ce genre de données, on voit ce la facteur Suisse. De surreprésentation. Oui. Je n'ai pas les chiffres, alors, je suis en tête, mais c'est
très probable. J'ai vérifié, moi, pour le coup, la Suisse a des statistiques ethniques, c'est autorisé, et la surreprésentation des personnes étrangères est parfaitement définie. Quoi, voilà.
Oui, et j'imagine qu'en
Suisse... Et même les secondes générations. Parce
c'est une donnée qu'on n'a pas en France, pour le coup. Oui. Sur les mises en cause et les détenus, on a la nationalité, mais on n'a pas l'effet de deuxième génération. La plupart du temps, les personnes sont de nationalité française. Mais on sait déjà, avec ce facteur de nationalité, par exemple, qu'en 10 ans, le nombre d'Algériens écroués en France a augmenté de 117%.
Comment ça s'explique, ça? Est-ce qu'on a une idée?
Il y a un mélange de plusieurs choses. Alors, l'immigration algérienne a progressé, mais pas dans ces proportions-là. Il est probable que les profils d'immigration algérienne aient changé. Il est probable qu'il y ait une montée de la violence de manière plus générique et qui peut notamment concerner spécialement ces populations. Mais en fait, le nombre d'Algériens écroués a augmenté 3 fois plus vite que la moyenne des étrangers écroués, qui a elle-même augmenté 3 fois plus vite que le nombre de Français écroués. Donc on voit qu'il y a des phénomènes de disproportion, à la fois entre Français et étrangers, mais aussi au sein des populations étrangères, et qui sont assez saisissants.
Alors, je ne sais pas si parmi nos chroniqueurs, quelqu'un veut poser une question à Nicolas Pouvreau-Monti, donc, qui est l'auteur, je le rappelle, hein, de « Immigration, mythes et réalités chez Fayard », Alexis Poulain, Xavier Vandelier, Jean-Yves Le Gallou.
Moi, j'aurais une question à poser, mais plutôt vers la fin. Je voudrais
d'accord.
qu'on continue.
Alors,
moi, j'ai une question tout de suite.
Allez, voilà.
Nicolas Pouvreau-Monti, dans tous les travaux que vous et votre observatoire vous livrez, donc, ce sont de véritables enquêtes, ce sont de véritables chiffres. Ce ne sont pas des chiffres que vous inventez les 3/4 du temps, c'est les statistiques du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, les statistiques de l'UNED, de l'INSEE, enfin, autrement dit. Et néanmoins, un reproche vous est fait, en fait, de choisir parmi ces statistiques celles qui vous arrangent, de les arranger, de proposer des formules pédagogiques du style ben, 700 000 personnes, c'est l'équivalent d'une très grande, de la troisième grande ville française. Et donc... l'un des reproches de la sphère médiatique, voire politique, c'est de dire, cette vulgarisation des chiffres sur l'immigration est en fait une manière de tromper le peuple français qui, normalement, devrait écouter Hervé Lebrun.
Écoutez, je pense que ce reproche qui tient évidemment assez largement de l'hypocrisie, parce que l'immigration, ça n'est pas, c'est pas un phénomène naturel sur lequel il y a des vérités scientifiques. C'est un sujet politique sur lequel il est légitime qu'il y ait des débats politiques et des appréciations politiques différentes portées, y compris sur des chiffres qui peuvent être les mêmes. Mais là où l'hypocrisie est présente, c'est que ce travail de rééquilibrage du débat public que nous menons, nous le faisons face à des citadelles universitaires médiatiques qui choisissent leurs chiffres depuis 30 ans, qui ont l'ensemble des moyens des institutions publiques, et donc les moyens publics, c'est-à-dire les moyens des finances publiques, les moyens des contribuables, pour faire ce travail d'orientation du débat. Nous apportons ce qui me semble être le contrepoint à ce discours officiel. J'ai pas le sentiment qu'on ait un discours unilatéral, qu'on choisisse uniquement des chiffres négatifs. Vous voyez, typiquement... je le disais tout à l'heure, il y a des immigrations, y compris il y a entre immigrations extra-européennes. C'est-à-dire que pour prendre deux exemples d'immigration dite post-coloniale, prenons les Algériens d'une part et les Vietnamiens d'autre part. Vous voyez, dès la première génération, le taux d'emploi des immigrés vietnamiens en France, il est plus élevé que celui des Français sans ascendance migratoire, et il est 15 points au-dessus des immigrés algériens. À la deuxième génération, alors même qu'à la première, vous aviez dans les deux cas faible niveau de qualification, très mauvaise maîtrise du français chez les immigrés vietnamiens, vous avez une surperformance à la fois éducative et économique des enfants de cette immigration par rapport aux immigrés, notamment algériens, mais aussi par rapport aux Français sans ascendance migratoire. On a publié la première étude sur cette immigration du sud-est asiatique qui représente par beaucoup d'aspects un modèle d'intégration abouti. Donc y compris dans le regard critique assumé que nous portons sur l'actuelle politique d'immigration, il me semble qu'on arrive malgré tout à être plus nuancé que le discours unilatéral d'un certain nombre des chercheurs qu'on a pu citer, qui part du postulat selon lequel l'immigration ne peut être que bénéfique par nature, et si elle ne l'est pas, ça serait forcément la faute de la société d'accueil. Nous n'adhérons pas à ces postulats, et je pense que nous y répondons de manière plus nuancée que nos adversaires.
Jean-Yves Le Gallou.
Oui, j'avais une question technique.
Je vous en prie.
Dans l'accès aux sources, est-ce que vous avez un accès facile aux sources primaires? Ou est-ce que vous êtes quand même obligé de passer par un premier traitement INED ou INSEE qui peut apporter des biais ou en tout cas fermer l'accès à d'autres données qui pourraient vous intéresser.
Alors, c'est évidemment une excellente question, parce que c'est notre matière première de travail, hein, les chiffres institutionnels. On arrive à aller aux fichiers sources, détails du recensement, typiquement, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas déjà mises en forme par des tableaux de l'INED ou de l'INSEE disponibles sur leur site. Typiquement, nous avons produit en janvier la toute première cartographie des données locales d'immigration, ville par ville, quartier par quartier, la part des immigrés dans la population, son évolution depuis 2006, la part des immigrés en emploi, sans emploi, la part des immigrés qui vivent en HLM, la part des HLM occupés par des immigrés et par des natifs. Ces données-là, elles ne sont pas disponibles directement sur le site de l'INSEE. Il a fallu travailler sur de très, très, très gros fichiers disponibles dans une sous-page cachée de l'INSEE. L'INSEE vous dira toujours qu'elles étaient disponibles, mais elles ne sont pas faites pour être rendues facilement accessibles.
Elles ne sont pas faites pour être accessibles.
Non,
oui.
non, absolument. Mais néanmoins, quand on sait les trouver et quand on se donne les moyens de traiter des très grosses bases de données, on peut trouver une finesse d'information qu'on ne soupçonne pas, parce qu'effectivement, il y a en France un certain nombre d'obstacles juridiques sur la question des statistiques liées à l'origine. Malgré cela, ça ne veut pas dire que les données produites par l'INSEE, y compris quand on arrive à les trouver et à les faire parler, soient irréprochables, notamment parce que pour estimer la population immigrée en France comme la population en général, l'INSEE a des méthodes qui sont vraiment uniques au monde. Vous savez, on fait un recensement quinquennal par échantillon, on recense plus tout le pays depuis le milieu des années 2000. On a un certain nombre de nos voisins européens qui ont des vrais registres de population tenus à jour. Les estimations de l'INSEE, elles ont un mérite, c'est qu'elles sont les seules qui existent et qu'elles sont relativement incontestables dans le champ du débat public, et donc on les utilise parce que ce sont de toute évidence les plus sérieuses sur le marché, mais elles ont quand même un certain nombre de défauts qu'il s'agira aussi de traiter. Alors, c'est le genre de question qui n'intéresse pas vraiment les politiques, parce que c'est une question technique de troisième ordre, mais ça nous permet ensuite de construire un discours cohérent et vrai, tout simplement.
C'est même essentiel de connaître quand même l'authenticité des sources et la...
Je pense que ce travail-là sera utile quand même. Même si effectivement dans le débat public,
mais il faut y arriver,
on pourra toujours vous dire vous n'êtes pas sur la source officielle, donc c'est pas bon.
Vous voulez rebondir, Jean-Yves?
Oui, je voulais rebondir. Au fond, vous vous battez pour introduire de la controverse face à des administrations publiques. Je voudrais que vous donniez peut-être une idée du rapport de force, c'est-à-dire combien vous êtes, et en face, il y a combien de fonctionnaires ou d'universitaires pour produire de la désinformation. J'aurai ensuite une sous-question et puis je rendrai la parole.
Bien sûr, bah écoutez, alors c'est difficile de faire un compte complet, mais pour vous donner deux champs différents, le champ des universitaires et le champ des associations militantes, il y a un réseau de chercheurs qui s'appelle l'Institut Convergence Migration, présidé par François Héran, c'est le compère d'Hervé Lebras. Institut Convergence Migration qui regroupe 800 chercheurs, alors en sociologie, en droit, en démographie,
respect, ça en impose,
y compris alors, des gens qui sont doctorants en sociologie dans n'importe quelle université de France, mais c'est le réseau de tous les gens qui, dans l'université, travaillent sur l'immigration avec le prisme qui est celui de François Héran, c'est-à-dire un prisme, je ne vais pas dire immigrationniste, mais rassuriste, favorable à l'accélération migratoire. Dans un papier peu favorable qui a été consacré à l'Observatoire par Le Monde il y a quelques mois, je suis ouvert à parler à tout le monde. L'une des responsables de l'Institut Convergence Migration, l'une des adjointes de François Héran, Flore Guibert, déclare, je cite, alors à propos de l'Observatoire, nous sommes trois personnes pour répondre à votre question, leur force de frappe est impressionnante. À l'Institut Convergence Migration, nous sommes 800 chercheurs et nous ne sommes pas audibles, c'est décourageant. Il aurait fallu ajouter 800 chercheurs financés par l'argent public, parce qu'on parle de gens qui travaillent dans l'université. Oui. Donc ça vous donne une idée des moyens institutionnels et des moyens financiers qui sont mis à disposition par la collectivité pour appuyer un point de vue particulier.
Ça fait des économies à faire.
Ah, donc dans la série de ce qui pourrait du gras, si je puis dire, il y a sans doute un petit peu de gras dans les 800 chercheurs de l'Institut Convergence Migration. Et un deuxième exemple dont on parle plus souvent dans le débat public, qui est celui des associations subventionnées. Vous savez que le ministère de l'Intérieur, sur son budget immigration, asile, intégration, accorde chaque année environ 1 milliard d'euros par an de financement. Non pas de subventions sans contrepartie, parce que la plupart du temps, c'est lié au fait qu'on confie à ces associations la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, notamment. Donc il y a aussi un intérêt, j'allais dire business, pour ces associations, à ce qu'il y ait toujours plus de demandeurs d'asile, parce que c'est la base de leur modèle économique. Mais par ailleurs, une part de cet argent sert à financer ce qu'on appelle pudiquement des campagnes de plaidoyer, c'est-à-dire des campagnes politiques, militantes, en faveur de l'immigration incontrôlée. Et l'exemple type, c'est France Terre d'Asile. Vous voyez, France Terre d'Asile, donc présidée par Najat Vallaud-Belkacem, en plus désormais de ses fonctions de magistrate à la Cour des comptes, c'est plus de 60 millions d'euros de financement par an. C'est des études régulières pour expliquer que la régularisation des clandestins rapportera 3 milliards d'euros aux finances publiques. Si vous voulez, ce sont des moyens liés à des délégations de services publics qui sont détournés à des fins militantes. Et ça, c'est d'autant plus problématique quand, dans le même temps, sur des contentieux, par exemple, entre des clandestins et l'État, des clandestins qui contestent leur OQTF typiquement, dans beaucoup de cas aujourd'hui, l'État n'a plus les moyens d'être représenté au tribunal administratif pour défendre sa position, alors que le clandestin est toujours accompagné d'un avocat qui peut être financé par l'une de ses associations, et s'il ne l'est pas, il l'est par l'aide juridictionnelle. Quand je vois l'affolement que semble susciter notre observatoire auprès des chercheurs susmentionnés, je me dis qu'on est vraiment la souris au milieu du troupeau d'éléphants. Et ça ne me déplaît pas forcément.
Alors avant d'y revenir, je laisse juste la parole 5 minutes à notre camarade Alexis Poulain.
Oui, j'avais une question. C'est pourquoi, connaissant ces chiffres, des responsables politiques comme Gérald Darmanin ou autres continuent de mentir et ne veulent pas dire la vérité aux Français ?
Alors, j'ai entendu...
Concernant les chiffres.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire, pourquoi ces politiques, ayant connaissance des chiffres réels comme vous, pourquoi ont-ils cette politique, enfin cette attitude ?
Écoutez, ce discours...
Oui, je comprends. Je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est évidemment la conscience aiguë pour certains d'entre eux de leur responsabilité dans cette affaire. Enfin, quand on a participé au gouvernement de ces dernières années, on a forcément une responsabilité. Alors, l'accélération de l'immigration, ça ne date pas d'Emmanuel Macron, hein, ça vient de bien au-delà. Mais...
On pourrait dater ça quand c'est Mitterrand, enfin, il y a le regroupement familial et Mitterrand qui régularise les premières vagues de sans-papiers, d'immigrés clandestins, pour parler.
Ça n'a pas eu d'effet immédiat sur les flux, alors ça a régularisé, ça a fixé.
Mais sur le principe.
Sur le principe, bien sûr, la dynamique d'accélération des entrées qu'on voit, on la voit globalement depuis la fin des années 90. Et donc, ça vient de plus loin que l'Emmanuel Macron, mais. Il n'en demeure pas moins que sous Emmanuel Macron, en moyenne, chaque année, on a accordé 35% de nouveaux titres de séjour en plus que sous François Hollande, 55% en plus que sous Nicolas Sarkozy. On évoquait la population de clandestins. Depuis 2017, le nombre de bénéficiaires de l'AME a augmenté de 50%. Donc ça vous donne une idée de la dynamique de l'immigration illégale. Il y a cette question-là, d'une part, qui joue sans doute dans la gêne de ces responsables politiques. Et il y a un deuxième facteur qui est sans doute aussi, chez ceux d'entre eux qui souhaiteraient peut-être agir, la conscience de leur impuissance immédiate. Parce qu'aujourd'hui, une large part des entrées d'immigrés ne dépendent plus directement d'une décision du politique. Deux exemples types, l'immigration familiale et l'asile. Vous avez là des immigrations de droit qui ne connaissent pas de limites quantitatives, qui sont le résultat d'une série de critères. À partir du moment où vous les remplissez, vous y avez droit sans limite. Le gouvernement n'a aucun moyen de s'y opposer. Et donc typiquement, quand Gérald Darmanin se dit favorable à un moratoire sur l'immigration, vous savez, on va arrêter l'immigration légale pendant 3 ans, on peut trouver que le principe est intéressant, mais je pense qu'il n'est pas sans savoir que, y compris pendant le Covid, y compris pendant le premier confinement, alors même que le pays entier était à l'arrêt et qu'il fallait se signer à soi-même une attestation pour sortir de chez soi 1 heure par jour dans un rayon d'un kilomètre, le Conseil d'État a obligé le gouvernement à reprendre l'examen des demandes d'asile. Quelques mois plus tard, alors qu'on était encore en confinement et qu'on pouvait quasiment pas sortir du pays, le Conseil d'État a obligé le gouvernement à reprendre la délivrance des visas de regroupement familial. Et donc, les responsables politiques savent sans doute, en tout cas ceux qui ont eu à traiter cette question, que tant qu'on n'aborde pas la question du gouvernement des juges sur ce sujet, qu'on ne travaille pas à remettre l'immigration dans le champ normal de la délibération démocratique, on peut faire des constats intéressants, on peut dessiner des pistes qui sont intéressantes, mais on n'a pas les leviers pour agir.
Alors je souligne quand même que les immigrés qui sont venus pendant le Covid n'avaient sans doute pas leur auto-attestation signée en plus. Donc ça aurait pu justifier une expulsion.
Oui, alors je vais passer tout de suite la question que je voulais passer pour la fin, parce que là ça s'enchaîne bien.
Ah, moi j'en ai une sur Macron.
Je vais sauter l'autre, je crois que vous avez donné là le titre de votre prochain livre, parce que comme celui-ci est un succès, vous serez amené à en faire un second. Et je pense que le titre du prochain livre, ça devrait être « Immigration ». Comment sortir de l'impuissance, ce qui amènera à poser toutes les questions juridiques et toutes les questions que les hommes politiques ne posent pas. Puisqu'ils arrivent, ils disent on va faire ci, on va faire ça. Et même dans l'opinion, on attend souvent des réponses entre guillemets techniques, alors que le problème, c'est pas de savoir si ça sera en Boeing ou en Airbus ou en Costa Croisière, mais comment juridiquement on va sortir de l'impuissance.
Et y compris si on est un parti qui met ça dans son programme parmi les premiers points, parce que la question aussi de la volonté politique se pose quand même de manière grave.
Bien sûr, et d'ailleurs un gouvernement qui voudra demain agir sur cette question D'abord, on aura besoin d'un mandat politique clair, donc il y a une nécessité d'être aussi... Oui, alors référendum, mais sans doute avant cela aussi, de faire une campagne présidentielle en disant très explicitement et très précisément ce qu'on souhaite faire sur cette question. Ça n'empêche pas ensuite, évidemment, de faire confirmer ça par la volonté populaire directement. Étant entendu que le référendum, c'est un vecteur, mais la question principale est de savoir ce qu'on soumet au référendum. Typiquement, si on souhaite réviser la Constitution... Que mettons dans cette révision, à la fois pour déblayer l'ensemble des jurisprudences qui rendent impossible la maîtrise de l'immigration, mais aussi pour éviter que 5 ans plus tard, on ait à refaire le même travail de redéblayer d'autres jurisprudences, parce que vous donnez une virgule au Conseil constitutionnel, il en fait un poème. Et c'est pour ça aussi qu'au-delà de ce travail effectivement d'état des lieux de la situation migratoire, nous travaillons à l'Observatoire sur l'ensemble des mesures, des prescriptions que nous portons auprès des responsables politiques pour les inciter à être aussi près que possible. Parce que la fenêtre d'action après une élection, avec un mandat politique fort, elle sera relativement restreinte. Et ça implique d'être parfaitement au clair sur ce qu'on souhaite faire, dans quel ordre, avec quels moyens, sur quel texte. On publiera d'ici le mois d'octobre un livre blanc de l'immigration sur l'ensemble des grands thèmes qu'on vient d'évoquer. Ce sera un vademécum programmatique avec des scénarios de reprise en main qui vont, j'allais dire, des plus prudents aux plus maximalistes. Est-ce qu'on touche
au nom ? Vous faites ça de manière pédagogique, j'imagine.
Bien
un
sûr.
Peu comme un travail d'influence pour les hommes politiques qui voudraient s'inspirer de ce travail.
C'est exactement ça. C'est un travail qu'on mène déjà auprès des hommes politiques, à l'Assemblée, au Sénat, dans les groupes de travail des partis, mais qu'on souhaite poser dans la lumière du débat public avec ce livre blanc, à la fois pour donner aux Français les moyens de s'en saisir et de demander des comptes à leurs responsables politiques. Ils ont le droit et peut-être même le devoir d'être exigeants sur ce sujet avant de voter, mais aussi pour mettre les responsables politiques précisément face à leurs responsabilités.
Alors, j'avais une question, moi, qui me semblait, qui a surgi quand vous avez évoqué Emmanuel Macron et ses 55% d'immigrés en plus par rapport à ses prédécesseurs. L'Union européenne vient d'adopter la possibilité de contrôler l'immigration illégale à travers des partenariats avec des pays tiers, et notamment en mettant ces immigrés illégaux dans des zones de rétention ou dans des camps où ils pourraient patienter en attendant qu'on traite leur dossier ou qu'on les renvoie chez eux, ou dans un pays, en tout cas un autre pays. Ça semble une excellente idée, mais Emmanuel Macron s'y oppose fermement. Il a expliqué que ça n'était pas sa vision de l'Europe, sa vision des droits de l'homme. Il a sorti toutes les tirades très poétiques, là, pour le coup, et en expliquant que la France ne financera pas un dispositif de ce genre tant qu'il sera président. Alors,
Et même ne le votera pas, puisque le dispositif européen doit être validé par l'ensemble des parlements nationaux.
Alors, là, j'avoue que ça me semblait pourtant facile de suivre la pente et de se dire, ok, évacuons le truc et mettons ça sur le dos de l'Europe. Et là, pour une fois que l'Europe fait quelque chose qui a l'air d'aller dans le bon sens, eh ben, on a un président français qui dit stop, il est hors de question d'empêcher l'immigration. Alors, comment expliquer la fascination ou l'adhésion massive ainsi d'Emmanuel Macron au principe migratoire qui cause pourtant des dégâts?
Écoutez, c'est évidemment difficile de sonder les cœurs et les reins. On remarque
Est-ce qu'il y a des intérêts particuliers? Est-ce que, sans parler de complotisme,
Je pense qu'il y a une part idéologique, très fondamentalement. Emmanuel Macron, c'est par beaucoup d'aspects un enfant des années 90, et dans sa construction idéologique, il y a, me semble-t-il, deux jambes qu'on ne peut pas couper, au risque de la rendre boiteuse. C'est d'une part l'attachement à l'immigration, nombreuse, et d'autre part...
Et donc irrationnel.
Sans doute en partie irrationnel, en tout cas qui tient, j'allais dire, d'un acte d'adhésion qui n'est pas un objet de remise en cause régulière. Et l'autre jambe, jusqu'à présent en tout cas, c'était ce qu'on appelle l'engagement européen, c'est-à-dire l'attachement à une construction européenne supranationale. Je remarque qu'avec l'immigration, on a trouvé la limite de l'engagement européen d'Emmanuel Macron, puisqu'il nous explique que l'Union européenne braderait les valeurs des droits de l'homme, etc. C'est évidemment surprenant. Sur un ensemble de sujets, de règles européennes relatives à l'immigration, la France, d'ordinaire, surtranspose les mesures qui sont prises. Vous voyez, c'est tout bête, mais j'évoquais le cas des demandeurs d'asile. Le droit européen, alors il y a deux formes du droit d'asile, c'est le statut de réfugié et la protection subsidiaire, en gros première classe, deuxième classe. Le droit européen oblige à donner un titre de séjour de 3 ans aux réfugiés, 1 an protection subsidiaire. Nous, en France, on donne 10 ans et 4 ans, tout de suite. Pourquoi ? On ne sait pas, c'est 3 fois ce que demande le droit européen. Mais là, sur cette question particulière des possibilités offertes dans la lutte contre l'immigration irrégulière, on se découvre d'un seul coup très tiède dans la mise en œuvre des règles européennes. Concernant le sujet précis des centres ou des hubs de retour que vous évoquiez, je pense qu'il y a deux choses qui méritent d'être dites. D'abord, c'est une bonne idée en soi, dans la mesure où ça peut faire partie des facteurs qui désincitent un certain nombre de candidats à la demande d'asile mal fondée ou à l'immigration irrégulière, parce que les migrants, y compris dans les situations de détresse réelle, qui sont souvent les leurs, sont des individus rationnels. Ils mesurent le risque et l'opportunité. Si vous visez l'Europe, mais que vous risquez de vous retrouver en Ouganda, en Ouzbékistan ou au Rwanda, peut-être que vous ne prendrez pas le risque. Donc ça, c'est un élément parmi d'autres. La deuxième chose qui mérite d'être dite, c'est que je vois pas de scénario dans lequel ça concernerait des centaines de milliers de migrants, parce que ça pose beaucoup de questions logistiques, juridiques, tant qu'on n'a pas réglé un certain nombre de questions constitutionnelles ou européennes. Mais en tout cas, c'est un pas dans la bonne direction, et c'est un pas qui a été porté au niveau européen, y compris par des forces très modérées. Hein. Voilà, le PPE d'Ursula von der Leyen a appuyé le texte, et on ne peut que s'étonner qu'Emmanuel Macron n'emboîte pas ce pas.
Ben oui, bon, ben d'accord.
je crois qu'il y a une explication. C'est que le PPE est quand même assez largement dominé par les Allemands, et que les Allemands de la CDU-CSU sont quand même aujourd'hui très menacés par la percée de l'AFD, qui est sur une ligne assez radicale. Oui. Et donc, c'est un peu du lest qu'ils essayent de lâcher maintenir la situation intérieure.
Et peut-être que dans ce cas-là, en France, Emmanuel Macron, à l'approche d'une présidentielle où le RN atteint des scores importants, voudrait... ne pas avoir l'air de cautionner un discours qui...
Oh bah le RN n'est même pas sur des lignes très radicales sur ce sujet.
Ah, pas pour vous, mais pour Emmanuel Macron.
Oui, superlatif.
mais en tout cas, c'est vrai que là où vous avez évidemment raison, c'est que le durcissement des règles européennes suit le durcissement allemand sur cette question, c'est incontestable. Et d'ailleurs, on évoquait les demandes d'asile, c'est une question majeure, hein, parce que pour toutes les raisons évoquées, en 10 ans, l'Union européenne a accueilli environ 8 millions de demandeurs d'asile, donc c'est un peu comme si on avait un nouvel État membre de l'UE, entièrement composé de demandeurs d'asile. Hervé Le Bras dirait que c'est pas une comparaison scientifique.
Voilà, oui, j'étais très choqué par la comparaison.
Mais il n'en demeure pas moins que c'est numériquement vrai. En 2015, au pic de la crise des migrants, il y a 10 ans, l'Allemagne recevait à peu près 6 fois plus de demandes d'asile que nous. L'an dernier, nous avons reçu plus de nouvelles demandes d'asile que l'Allemagne, alors même que nous sommes un pays moins peuplé. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nos voisins restreignent leurs conditions matérielles d'accueil et leurs conditions juridiques d'accueil dans la mesure permise par le droit européen pour certaines catégories d'immigration non désirées, nous devenons de plus en plus ce que nous sommes hélas depuis quelques années, c'est-à-dire un pays de rebond vers lequel se dirigent des flux qui se seraient dirigés auparavant vers la Scandinavie ou vers l'Allemagne, mais qui vont maintenant vers le pays le mieux disant. Et parmi les pays mieux disant, il y a incontestablement la France.
Oui, parce qu'encore une fois, les réseaux d'immigration légale ou illégale, d'ailleurs, sont souvent pilotés par des gens extrêmement au fait de nos lois et qui savent où on envoie tel immigré qui a envie de travailler, tel immigré qui veut des soins gratuits, tel immigré qui veut des aides sociales ou ceci ou cela. Quoi. Donc ça n'est pas un vrac qui déboule au petit bonheur la chance en se disant « j'espère qu'on me donnera une bouteille d'eau ». On va faire une petite parenthèse, si vous voulez bien, parce qu'on a l'habitude de faire connaissance avec notre invité, généralement, et là, on est un peu parti droit dans le sujet. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes devenu le directeur général donc, de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie? Comment ça se passe? Quel était votre parcours?
Écoutez, avant d'en devenir le directeur général, j'en ai été l'un des cofondateurs, puisque c'est une équipe qui a créé l'OID il y a maintenant 5 ans. On était précisément une moitié de hauts fonctionnaires et une moitié de cadres du privé, 3 et 3, nous étions 6 cofondateurs, qui partagions plusieurs constats. D'une part, évidemment, une très grande préoccupation quant à l'impact des politiques d'immigration sur les possibilités d'avenir de notre pays, sur sa capacité de cohésion sociale, sur la soutenabilité des finances publiques, sur l'ensemble des questions qui préoccupent légitimement l'opinion en rapport avec ce sujet. On partageait aussi une très grande déploration quant à l'état du débat public sur ces questions. Et on avait le sentiment qu'il y avait deux camps, finalement. D'une part, ce qu'on pourrait appeler les dénégationnistes, ceux pour qui ça ne saurait être un sujet, jamais une difficulté, jamais un problème, jamais au grand jamais. Et d'autre part, des personnes qui pouvaient être très conscientes de certaines réalités, mais qui nous semblaient se contenter trop souvent de slogans un peu faciles, ou de « y'a qu'à faucon », finalement. Et on voyait des responsables politiques ou des éditorialistes qui, globalement, avaient raison sur le sujet d'un débat sur l'immigration, réussir à perdre ce débat.
Par manque d'informations, alors.
Oui, sans doute, en tout cas, par incapacité à répondre à un chiffre, à un fait, à un argument, autrement que par des constats empiriques qui sont par ailleurs très légitimes, oui, et qui sont ceux que tous les Français peuvent faire, mais auxquels on opposait la vérité pure et abstraite des chiffres, de la connaissance, etc. Or, quand on va directement à la vérité des chiffres, des faits, des données les moins contestables, on se rend compte assez largement que les Français ont plutôt raison de voir ce qu'ils voient. On a fait ça, ce travail, pendant 3 ans de façon purement bénévole, et je suis maintenant, donc j'avais un métier très classique, hein, j'étais consultant en stratégie dans le secteur privé. Avant ça, j'étais étudiant à Sciences Po Paris, et je confirme qu'on peut y survivre, c'est possible. Et depuis 2 ans, c'est donc mon métier, avec cette petite équipe, on est trois permanents, on a en revanche un vaste réseau de contributeurs qui nourrissent nos travaux. C'est aussi un modèle qui s'exporte, l'OID, on a pu cofonder le réseau international de recherche sur l'immigration, avec des think tanks qui font la même chose que nous, en Europe, aux États-Unis, dans un certain nombre de pays. La réception bonne, pour ne pas dire très bonne, de nos travaux, leur impact, leur écho, dans la sphère médiatique au sens large, au-delà des seuls médias les plus directement portés à écouter ce que nous avons à dire, mais aussi dans la sphère politique, y compris auprès d'élus du Bloc central, tendent à me laisser penser que peut-être que l'offre est de qualité, mais en tout cas, il y a une demande sur ce sujet, et il semble qu'on occupe une place qui n'était pas prise jusqu'à présent.
D'accord. Et alors, comment vous fonctionnez toute l'année ? Alors, vous décidez d'un certain nombre d'études, vous rebondissez sur des polémiques. En gros, comment vit... Une semaine ou un mois de l'équipe de l'Observatoire de l'immigration.
Écoutez, alors évidemment, la réponse facile, c'est de vous dire qu'aucune semaine ne se ressemble. mais fondamentalement, il y a...
Vous avez un plan sur une année, en gros ?
Oui, alors on a un calendrier des publications, un certain nombre de sujets qu'on souhaite mettre sur la table. Parfois, évidemment, on est rattrapé par l'actualité et on produit une étude plus rapidement, réagit, oui. Bien sûr, tout à fait. À la fois, il y a les sujets que nous mettons sur la table. Alors, j'évoquais la question du droit d'asile. Nous avons posé la première estimation du nombre de personnes à travers le monde qui remplissent les critères pour avoir l'asile en France, 580 millions de personnes. J'évoquais l'immigration afghane. Nous avons publié, en partenariat au ID Fondapol, la première étude sur l'immigration afghane en France, qui a révélé donc, qu'il y avait désormais 100 000 Afghans arrivés en l'espace de quelques années. La première étude consacrée à l'impact de l'immigration sur le logement social, avec les vrais chiffres de la surreprésentation de certaines immigrations sur 2 générations dans le logement social. Donc ça, ce sont les sujets que nous portons proactivement dans le débat public et qui n'y seraient pas forcément venus sans nous. Ça, je peux le dire au moins sur l'immigration afghane et sur le demi-milliard de bénéficiaires potentiels de l'asile. Et puis, à côté de ça, tout un travail de réaction au sujet qui vit à côté de nous, parce que l'OID n'est pas la seule raison pour laquelle on parle d'immigration en France, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc ce travail de production d'études, d'analyses, avec des formats très classiques de notes, mais aussi avec des chiffres sur les réseaux sociaux, via notre lettre d'information qui est très lue par les parlementaires.
Tout le monde peut se la procurer ?
Tout le monde peut se la procurer. Comment ? C'est sur notre site observatoire-immigration.fr. Vous avez un petit onglet en bas de la page pour souscrire à la lettre d'information. C'est évidemment gratuit. Évidemment, nous vivons grâce aux dons libres de citoyens.
C'était ma question.
Si vous suivante. Souhaitez nous soutenir, après avoir soutenu Radio Courtoisie, bien sûr.
Ah, merci. Bravo.
Ouais, vous êtes plus que qu'invité à soutenir l'OID. Ça nous est infiniment précieux parce que vous comprenez que les moyens en face de nous sont nombreux. Et on porte ces études. Donc dans la sphère médiatique, dans la sphère politique, j'ai le bon espoir de dire que nous arriverons à ce que l'immigration soit enfin débattue lors de la prochaine élection présidentielle. On pourrait dire qu'elle le sera naturellement, mais il ne faut pas se nourrir d'illusions. La capacité des médias et d'un certain nombre de candidats à esquiver les sujets importants est parfois très surprenante. On aurait dû en parler en 2022, mais il y a eu le Covid, puis la guerre en Ukraine.
On en a parlé un peu grâce à Zemmour. Sinon, on n'aurait fait que du pouvoir d'achat et du chèque distribué aux demandeurs.
2 mois à l'automne 2021, on en a effectivement parlé, mais ensuite, dans le cœur de la campagne, ça avait complètement disparu. Ça a été le 9e déterminant de vote au 2e tour, ce qui est quand même hallucinant. C'est devenu le 2e, hein, aux européennes de 2024 législatives. Mais en tout cas, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'on ne puisse plus esquiver ce sujet pendant la campagne, parce qu'en France, quand on a une grande conversation nationale à avoir, on a la présidentielle. Et deuxièmement, que les politiques ne puissent pas esquiver le fait de dire clairement ce qu'ils souhaitent faire, avec quels moyens, dans quelles conditions, pour qu'ils puissent soit agir en ce sens, et on le souhaite évidemment, soit qu'on puisse leur demander des comptes quant à leurs engagements.
Alors là, j'ai l'impression que ça sera plutôt un sujet dans l'actualité, puisque tout simplement, la France insoumise en a un peu décidé ainsi, en présentant son concept de Nouvelle France, qu'on oppose donc aux Français tout blanc tout moche. Et quel est peut-être le poids justement de l'immigration, selon vous, dans cette nouvelle France, et où cela va-t-il nous mener ? Est-ce que vous avez des projections ? Parce que vous étudiez la démographie. Or, la démographie me semble une science à peu près exacte, parce que je crois qu'on peut savoir sur 50 ans ce qui va se passer.
Alors, oui et non.
Sauf accident grave.
C'est-à-dire que, par définition, les projections démographiques ne sont jamais parfaitement exactes, il y a une part d'impondérable, mais il y a évidemment des grandes tendances qui se dessinent. Il se trouve que nous publierons en septembre la toute première étude de projection démographique sur la France d'ici à 2100. À quoi ressemblera la population de notre pays dans la suite du XXIe siècle, selon les politiques migratoires et de natalité qui seront mises en œuvre avec notamment...
Et si rien ne change.
Et si rien ne change. C'est-à-dire qu'effectivement, le scénario où rien ne change, le scénario où l'immigration s'accélère, et ce n'est pas un scénario théorique, parce que c'est la dynamique dans laquelle on est engagé, il y a aussi un scénario de restriction, et on voit que les choix migratoires que nous ferons dans les toutes prochaines années, si nous les maintenons par la suite, auront un impact décisif sur ce que sera la société française à la fin du siècle et sa capacité de cohésion. Pour répondre à votre question sur le concept de Nouvelle-France, il est évident que le facteur migratoire est central. Alors, Jean-Luc Mélenchon et d'autres vous expliqueront qu'il y a d'autres aspects dans le concept, hein, le changement du rôle des femmes, l'urbanisation, la hausse du niveau d'études.
Ouais, parlons-en du rôle des femmes. Hein,
bah, c'est,
parce que ça, oui.
ce sera peut-être à terme incompatible avec la politique d'immigration incontrôlée, notamment sur les profits d'un certain nombre de demandeurs d'asile, mais c'est une autre question. Il est clairement le sujet principal, c'est la transformation sociale, anthropologique de la population
française. Et territoriale
française,
même, non ?
Et territoriale sous l'effet de l'immigration. Et
comment est-ce que vous voyez ça, justement, pour les quelques minutes qui nous restent ?
Oui, bah, écoutez, alors, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé suite aux dernières municipales. Il y a des cas archétypaux, hein, vous évoquiez Creil. De fait, Creil, c'est une ville qui est concernée de très longue date par l'immigration, qui l'a été encore plus ces dernières années, avec un nouveau maire qui revendique être issu de la communauté pakistanaise, qui effectivement est très nombreuse à Creil. Ça fait partie des quelques points...
Qui a remplacé les Algériens, donc.
Il y a aussi beaucoup de ressortissants pakistanais à Dreux. Il y a quelques villes comme ça.
Si je me permets, c'est parmi les villes qui ont été les premières concernées par l'immigration maghrébine. Quand on cite Dreux et Creil, c'est les grandes années...
Les années 80.
80.
C'est ça, on pense à 83, Dreux, la percée du Front National.
Et 89,
l'affaire de Creil. Absolument. En Ile-de-France, on a beaucoup parlé de la Courneuve. Vous voyez, la Courneuve, gagnée par LFI, c'est tout simplement la ville de France métropolitaine qui compte le plus d'immigrés dans sa population. On a beaucoup parlé de Saint-Denis. Saint-Denis, c'est une ville où près de 40% de la population est immigrée de première génération.
La Courneuve, je signale encore une fois pour parler du rôle des femmes, c'est une des zones où il y a le plus fort taux de polygamie. Comorienne, je crois, ou africaine en tout cas. Donc là, c'est autre chose que la femme voilée, là, c'est la polygamie.
Oui, ça, c'est un phénomène qu'on retrouve dans certaines immigrations africaines, sahéliennes, peut-être aussi comoriennes. Mais en tout cas, le pari démographique de LFI, c'est de considérer que, typiquement, la part de l'électorat issue de l'immigration récente extra-européenne, notamment subsaharienne, maghrébine ou turque, accrue, elle est nombreuse, elle a vocation à croître encore. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez la moitié des descendants d'immigrés d'Afrique subsaharienne qui ont moins de 15 ans, qui ne sont pas encore électeurs, mais qui seront électeurs dans les années à venir. Et donc, c'est ce pari démographique de long terme que LFI n'a pas inventé, parce qu'on parle de la Nouvelle-France, mais il y a 15 ans, dans la fameuse étude de Terra Nova, on parlait de la France de demain. Mais c'était exactement le même concept. La même coalition d'électorat avec au centre le même facteur migratoire et des calculs très cyniques sur les naturalisations. On vous explique qu'en un mandat, 100 000 acquisitions par an, 500 000 nouveaux électeurs qui sont à 80% alignés avec la gauche, disait-on à l'époque, pour les immigrés et descendants originaires d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb. Donc c'est un pari qui est fait.
C'est un pari hasardeux quand même.
Alors à court terme, c'est hasardeux, clairement, parce que aujourd'hui, les aspirations à un plus fort contrôle de l'immigration, elles sont non seulement majoritaires, mais consensuelles dans l'opinion. Et en s'adressant à cet électorat particulier avec ce que LFI estime être ses deux préoccupations spécifiques, politique libérale sur le plan de l'immigration, parce qu'on a de la famille, des amis qui sont en situation irrégulière ou qui sont au pays et qui veulent arriver, gestion libérale des différences culturelles générées par l'immigration, notamment la place de l'islam dans l'espace public. En faisant ça, on parle sans doute à cet électorat-là, et ça marche plutôt bien. Il y a presque 70% des électeurs musulmans qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour en 2022, mais on s'aliène aussi...
Mais vont-ils poursuivre ?
Et ça, c'est une question. Pour l'instant, rien ne laisse supposer qu'il y ait une désaffection immédiate. Vous voyez, aux dernières européennes, selon les enquêtes disponibles par affiliation religieuse, 60% des électeurs musulmans ont voté pour la liste de la France insoumise. On a à peu près le même ordre de grandeur dans les sondages pour 2027. Ça aliène une part du reste de l'électorat, parce qu'y compris à gauche, y compris parmi les électeurs de gauche d'aujourd'hui, il y a une aspiration nombreuse à un plus fort contrôle de l'immigration. Mais encore une fois, on revient à cette idée de pari de long terme, qui a une sorte de poussée démographique qui fera que cette équation qui peut être perdante à un instant T sera gagnante à un instant T plus 1 ou T plus 2.
Et alors là, je pensais notamment à aux communautés, si je puis dire, woke, les intersectionnels, puisque on a vu Sébastien Delogu, donc, qui est député à Marseille, LFI, accueillir le ministre sénégalais qui a été celui qui a porté notamment la réforme qui condamne à 10 ans de prison le crime d'homosexualité au Sénégal. C'est quand même un peu la défaite des woke qui ont soutenu LFI dans les années 2010.
Bah, ça, ça pose la question de la durabilité de l'attelage dit France
et de
demain.
Et de l'intersectionnalité.
Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sujets, notamment dits de société ou de mœurs, sur lesquels les attentes, sectionnelles de l'intersectionnalité pourront être incompatibles sur le long terme. Quand vous regardez les enquêtes quant au rapport à l'homosexualité, par exemple, selon la filiation religieuse ou selon l'origine migratoire, vous voyez qu'il y a un fossé entre la population et notamment les jeunes issus, par exemple, de pays d'origine musulmans et le reste de la population. Pour l'instant, cet électorat fait abstraction de ces questions dans son soutien à la France insoumise, parce qu'il y a d'autres thèmes qui, semble-t-il, sont jugés prioritaires. La Palestine, la gestion libérale des différences culturelles, une politique libérale en matière
d'immigration. Et l'État-providence.
Et l'État-providence aussi. La question est de savoir si la percée démographique de cette partie de la coalition ne créera pas un rapport de force tel qu'un certain nombre d'autres sujets seront d'abord dépriorisés, puis abandonnés, puis peut-être renversés. Et on peut penser effectivement à l'ensemble des questions dites de genre ou de sexualité.
Et territorialement, il nous reste deux minutes, comment vous voyez l'avenir justement ? Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers une sorte de peau de léopard à la libanaise ou à la brésilienne ? Ou est-ce que vous pensez à un autre scénario ?
Écoutez, je pense qu'un scénario de grande séparation spatialement délimitée à la libanaise ou même à l'américaine, hein, où il y a parfois une ségrégation de fait entre une ville et l'autre ou une grande part de l'État et l'autre, est quand même difficile à concevoir en France pour différentes raisons. D'abord parce qu'on a l'ensemble des politiques coercitives dites de mixité sociale, mais qui en fait recouvrent assez largement une vision de mixité fondée sur l'immigration. On a l'effet de la loi SRU, clairement, qui fait que dès qu'on a une ville de quelques milliers d'habitants, on doit avoir un quartier de logements sociaux dans lequel les immigrés sont en moyenne trois fois plus représentés que les non-immigrés. Tant que ces dispositions-là existent, je ne vois pas de scénario de séparation. Je ne pense pas, par ailleurs, que ce soit souhaitable. La question qui se posera à terme, c'est vraiment la capacité non seulement de cohésion sociale, mais même de paix civile. Il me semble qu'il y a peu d'autres questions.
C'est-à-dire comment gérer la paix, effectivement, et comment gérer le risque aussi pour avoir la paix.
Alors, c'est une très vaste question, mais je dirais que la première chose à faire, c'est d'agir sur ce sur quoi on peut agir le plus facilement, c'est-à-dire les flux entrants. Il y a un certain nombre de diasporas sur lesquels, si on fonde un espoir d'intégration ou d'assimilation, en tout cas c'est l'espoir que fonde officiellement un certain nombre de partis politiques, on ne fera pas l'économie d'assécher l'alimentation constante de ces diasporas par de nouveaux flux migratoires en provenance des pays d'origine qui à la fois maintiennent le lien avec le pays d'origine, maintiennent la culture d'origine dans le pays d'accueil et rendent toute perspective de ce type absolument illusoire. Et peut-être pour finir aussi de vous répondre, il y a une deuxième question qui est celle de la natalité. On a aujourd'hui en France plus de 30% des naissances qui sont issues chaque année d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne, avec des dynamiques vraiment très différentes selon l'origine. Moins 28% de naissances de deux parents nés en France depuis l'an 2000, plus 73% pour deux parents nés en dehors de l'Union européenne. Si on n'agit pas à la fois sur les flux, mais aussi sur la relance de la natalité française au sens large, on se condamne à des lendemains difficiles quant à la capacité de cohésion de notre pays.
Alors, ultime question, peut-être pour finir sur une note positive, vous proposez dans votre conclusion d'opposer le fatalisme à la lucidité active. À que faire, comme dirait l'autre. Écoutez, en attendant vos prochaines études et le tome 2.
Sur un vaste sujet, peut-être simplement pour vous donner un exemple du fait qu'on peut faire quelque chose, en attendant le vademécum programmatique de l'automne, on parle beaucoup ces dernières années du Danemark, et c'est pas fondamentalement mal placé. Alors la politique de danoise, il faut pas l'idéaliser, mais typiquement, en 10 ans, le nombre de nouveaux demandeurs d'asile reçus au Danemark chaque année a baissé de 90%, pendant qu'il doublait en France. À quoi ça tient ? Ça tient au fait que des politiques migratoires différentes produisent des résultats différents. Si vous éteignez les facteurs d'attractivité et que vous augmentez les facteurs de désincitation, si vous envoyez des signaux de fermeté, parce qu'il y a à la fois la politique elle-même et la façon dont on communique sur la politique, on a des résultats. Ça se voit au Danemark, ça se voit en Suède, ça s'est vu aussi aux États-Unis depuis un an. Et donc je pense que de toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'agir sur cette question en étant très conscient de la gravité et de l'urgence de la situation, mais en sachant aussi, j'y reviens, que l'immigration, ça n'est pas un phénomène naturel. Les politiques ont des effets dans un sens, mais aussi dans l'autre.
Est-ce qu'on peut faire ça sans mettre en cause le pouvoir du Conseil constitutionnel ?
Ça me semble très difficile.
Allez, on doit se quitter. Chers auditeurs, pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je cède le micro à Richard de Sèze. Et merci donc à Nicolas Pouvremonti, auteur de Immigration, Mythes et Réalités chez Fayard. Et ben, j'espère vous recevoir à l'automne pour aborder la suite.
Ce sera avec joie.
Merci beaucoup.
La gauche cible les associations de droite pour les priver de dons, défiscaliser et veut nous empêcher d'exprimer nos idées, vos idées. Une enquête exclusive de Radio Courtoisie et de ses partenaires lève le voile sur l'hypocrisie de la gauche subventionnée et ses pratiques fiscales douteuses. Du 23 au 26 juin, des révélations en continu sur les sœurs de la perpétuelle indulgence, Médiacité, l'ADMD et l'association Fier and Queer. Avec la publication des articles de l'Incorrect, de l'Ogym, de Boulevard Voltaire et de nouvelles émissions. Restez bien à l'écoute de notre antenne. We'll be right back.